Chapitre 5. Le poète. Par une nuit froide de la fin d'avril, je tombai sur un marronnier du jardin du Luxembourg, les ailes pleines de givre, à moitié aveuglé par la lumière brutale des becs de gaz, épuisé d'avoir volé d'un seul vol des fortifications jusqu'au cœur de Paris. Je m'abritai au milieu d'un bouquet de feuilles naissantes et je m'endormis. Aux premières lueurs du jour, je remarquai en plusieurs places de l'arbre des sortes de pelotes grises. C'étaient d'énormes pigeons, de l'espèce sauvage, mais devenus bourgeois et maîtres du jardin. Ils m'aperçurent qui m'étiraient et me lissaient de mon mieux pour faire honneur à la grande ville. Ma mine piteuse parut les mettre en gaieté. Un gros mâle, dont la panse était à demi déplumée, me fixa de son œil jaune et bête. « Tiens, qu'est-ce que c'est que celui-là? Un rossignol ?» « Oui, monsieur, pour vous servir. »« Quelle idée avez-vous donc, grommela sa pigeonne, de venir dans notre marronnier ?»« Est-ce que cet arbre est véritablement à vous ? » demandai-je poliment. « Je suis arrivé cette nuit. » Ils se mirent à rire. « Oui, ma chère, reprit le gros pigeon, monsieur est mélomane, un petit clavecin vivant, un gobeur de mouches. »« Un artiste, gloussa la pigeonne. » « Un artiste !» s'écrièrent une demi-douzaine de jeunes vauriens, les fils probablement qui perchaient sur les basses branches. En même temps, ils s'élancèrent sur moi et m'eurent assassiné si je n'avais échappé en fuyant au plus vite. Ils ne me poursuivirent pas, d'ailleurs, décrivirent une courbe et se laissèrent tomber dans les allées du jardin. Je m'étais réfugié sur une cheminée. Un moineau y piaillait, il me considéra d'un œil étonné et bon enfant. « T'as pas l'air parisien, mon pauvre petit, » dit-il. « J'arrive, en effet. Les pigeons m'ont chassé de leur arbre. Il y a longtemps que je les connais. Va, nous nous battons tous les jours. Mais aussi, que viens-tu faire ici ?»« Chercher un poète. »« Je ne connais pas ça. Qu'est-ce que c'est ?» Il n'attendit pas ma réponse. Une voiture venait de passer. Mon voisin s'élança avec un cri vainqueur. Une vingtaine de moineaux tourbillonnèrent à sa suite, s'abattirent, et je les vis se disputer et disperser à coups de bec je ne sais quelle proie ignominieuse. Quel monde, pauvre rossignol des bois! Il fallait trouver un gîte. Du haut des toits, j'avisai un jardin, bien petit, il est vrai, mais qui me paraissait n'être à personne, je veux dire à aucun oiseau. De trois côtés, il était borné par de hautes murailles, du quatrième par une rue. Un polonia aux fleurs violettes au milieu, de jolies corbeilles dans les coins, beaucoup de lierre le long du mur, voilà tout le jardin. Je m'établis dans une touffe de lierre et, dès le lendemain, je partis en quête du sujet rare que j'étais venu chercher. Hasardeuse promenade au-dessus des rues et des boulevards dont je revenais mécontent et brisé. L'air épais, chargé de fumée, me rompait les poumons, le bruit m'étourdissait, la foule, enchevêtrant ses courants comme les moires de l'eau, obéissait à toutes les passions, à tous les caprices, à toutes les cupidités, je me sentais effleuré par des milliers d'intérêts en jeu, mais l'homme du rêve ne se présentait pas. Au retour, je m'endormais, las de cette vie agitée, de ces courses sans profit, de la verdure du jardin étiolée et salie, me demandant si je ne devais pas renoncer à mes projets et regagner les solitudes où mon vieux maître m'attendait peut-être pour mourir. Un matin, en m'éveillant, je fus très étonné d'apercevoir, sur le banc qu'ombrageait le polonia, deux jeunes gens, un frère et une sœur. La jeune fille, en robe du matin, ses cheveux dans le dos, regardait, moitié riante et moitié inquiète, les fenêtres du premier dont les rideaux pendaient immobiles. Elle devait avoir 16 ans au plus. Toute son âme, candide et spirituelle, vivait sur son visage. Son frère, 18 ans peut-être, avec de longs cheveux blonds rejetés en arrière, une fermeté de traits que le duvet de la jeunesse cachait encore, avait une gravité songeuse dont ses joues roses, à fossette d'enfant, riaient entre elles et des yeux vagues qui se croyaient profonds. Au moment où je le vis, il venait d'entr'ouvrir sur ses genoux un cahier relié avec des faveurs bleues, dont le titre en gothique portait « Première poée ». L'inclinaison de la feuille, un peu retournée sur elle-même, ne me permit pas d'achever, mais je devinais qu'il s'agissait de première poésie, car les lignes, inégales, indiquaient des vers. Il ferma le cahier et, posant dessus comme un sceau sur un trésor précieux, sa main fine d'adolescent regarda sa sœur. « René, tu me promets le secret ?» Elle prit un air grave et répondit « Je te le jure !» La formule était si solennelle, l'accent si dramatique, que je ne pus m'empêcher de rire dans mon lierre. Ils tournèrent leurs deux jeunes têtes de mon côté. « Les oiseaux s'éveillent, » dit René. « Dépêche-toi, tu sais que maman est matineuse. » Il eut alors, d'un ton pénétré, précipité et coupé par l'émotion, une pièce de verre intitulée « Les ramiers ». Comme il traitait de la bonne manière ces égoïstes volatiles du Luxembourg, j'étais ravi. Quand il eut fini, « C'est bien joli, Paul, bien joli, » dit René. « Tu trouves ? Je crois même que c'est un vrai chef-d'œuvre. Tu devrais te faire présenter à quelques grands poètes, à Bruno par exemple. » Paul la regarda tendrement. « Pauvre petite, et par qui ?» À ce moment, la fenêtre du premier s'entrebâilla. René poussa un petit cri, Paul devint rouge et se pencha jusqu'à terre pour dissimuler le cahier encore ouvert sur ses genoux. « Paul, René, mes enfants !» dit une voix un peu traînante. Ils rentrèrent. J'avais trouvé un poète, bien jeune il est vrai, mais je résolus de m'en tenir à celui-là, de peur de n'en pas rencontrer d'autres. Seulement, mon ami, Paul de Scabieuse, c'était son nom encore inconnu, destiné à la gloire, et que je m'applaudissais d'avoir découvert avant qu'il fût célèbre, mon ami avait un défaut, il était toujours sorti. Je suis sûr, pour l'avoir souvent déploré, qu'il ne demeurait pas une heure par jour dans sa chambre, en état de veille. Visite, promenade, réunion mondaine, la journée entière y passée et une partie de la nuit. Je me demande encore quand il pouvait travailler à ses chefs-d'œuvre. Je m'attristai de ne pouvoir lui parler et j'appelai de tous mes voeux quelque événement qui modifia sa vie lorsque, un mercredi, je vis mon poète sortir d'une maison d'apparence modeste, rue Madame. Un homme d'une trentaine d'années qui devait professer dans un pensionnat de jeunes filles, pâle d'avoir trop lu et d'une distinction travaillée, lui dit en le reconduisant « À ce soir, cher monsieur, c'est convenu, je vous présenterai et je vous prédis un vrai succès. » Et Paul s'en alla rayonnant. J'avais compris qu'il s'agissait de présenter mon amie Scabieuse à un grand poète et j'étais content, moi aussi, et rentré dans mon lierre, je songeais doucement. Car tout allait changer dans sa vie. Je le voyais, encouragé par l'accueil que les maîtres de la littérature ne manqueraient pas de lui faire, renoncer au bal, s'éprendre d'une noble ambition pour la gloire, s'enfermer dans sa chambre et vivre en artiste laborieux. Oh, alors, comme il serait doux ces soirs d'été, où, las du travail du jour, il s'accouderait à sa fenêtre et m'écouterait chanter. Tout le reste de la journée, Paul écrivit ou déclama dans sa chambre. Lorsqu'enfin il sortit de la maison, vers 9 heures, je ne sais lequel était le plus ému, de René qui l'embrassa, de lui qui s'échappa dans la rue sans détourner la tête, ou de moi qui m'étais décidé à le suivre. Devant la maison de Bruno, il y avait un jardin fermé d'une grille et, dans le jardin, un sorbier. Je m'y perchai pendant que mon jeune ami, très pâle, disparaissait dans l'escalier en boutonnant son dernier gant. On devinait une réception au premier étage, derrière les stores baissés. Quelques rayons échappés étoilaient çà et là les branches, une rumeur confuse bourdonnait autour de moi et s'enflait tout à coup quand la porte de l'appartement s'ouvrait à un nouvel invité. C'était tout ce que je pouvais percevoir et connaître de cette soirée à laquelle j'aurais tant aimé assister. Mon poète y débutait, dans un instant, peut-être les ramiers seraient célèbres et je n'aurais que l'écho de ses applaudissements. Pour la première fois, j'eus un peu de regret de n'être pas simple serin ou chardonneret de maison. Les heures se passèrent pour moi dans une incertitude où l'espoir dominait pourtant. La nuit, qui devait être délicieuse dans les bois, était chaude à Paris. Le vent ne descendait pas jusqu'à moi, il soufflait là-haut, vers les étoiles, dans la route immense que suivaient, pour s'en retourner, les dernières bandes de canards et les hérons isolés dont j'entendais l'appel. Vers minuit, un premier invité sortit de chez le grand poète, il bâillait affreusement. « Le rustre ! » sifflai-je dans mon sorbier, « bâillait après les vers de Scabieuse ?» Puis trois gros messieurs traversèrent le jardin. « Non, parole d'honneur, dit le plus grand, le plus large, le plus in-folio des trois, cela devient insupportable. Bruno a la manie de nous exhiber de petits jeunes gens qui endorment tout le monde sous prétexte de poésie. Ça gâte une soirée, les vers. » « Oh oui, répartit le second, c'est bien assez de Bruno quand il lui prend l'idée de réciter ses langueurs. »« Lamartine, va, murmura le troisième, et je vis bien à son air qu'il croyait dire une injure. » Enfin, Paul de Scabieuse sortit à son tour, la tête basse, à demi cachée dans le col de son paletot. Il traversa rapidement le jardin. Quand il fut dehors, seul, inconnu, libre de pleurer, il ne se contint plus et éclata en sanglots. Pauvre Scabieuse! Je fis alors une chose que notre amour-propre d'artiste nous défend d'ordinaire, et comme il s'en allait, rasant les murs, par les rues les moins fréquentées, je volai au-dessus de lui et l'appelai sur un ton très doux. « Ami, 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 ami !» Il n'y prit pas garde d'abord. Je répétai mon appel. Il leva les yeux. Un sourire de pitié, un sourire pâle et triste à m'en faire pleurer moi-même, effleura ses lèvres. Un peu plus loin, quand il vit que je tournais la rue avec lui, il sourit tout à fait. Et quand il fut rentré, quand il entendit les premières modulations d'un chant que je lui adressais, en effet, du fond de mon lierre, il ouvrit sa fenêtre, et plus de 2 heures durant, je le consolai, moi, Rossignol des Bois, du dédain des hommes. Ce fut la plus belle nuit de ma vie, car il comprit tout, car il ne se lassa point, car son âme, toute vierge encore, s'épanouissait à m'écouter. Il m'eût écouté plus longtemps encore si je l'avais voulu. Mais je pensais qu'il avait besoin de repos, que la nuit devenait froide, et je pris le parti de me taire, le laissant apaisé, et peut-être un peu plus poète qu'auparavant. La nuit s'écoula, et l'aube vint. Alors, je songeais qu'un bonheur si parfait doit être rare, je me rappelais mes épreuves passées, j'eus peur de ce lendemain qui commençait. Que serait-il? Si mon Scabieuse allait changer et déchoir avec le temps? S'ils allaient avoir raison de cette vocation si nouvelle, ceux qui s'en étaient moqués? Ah, plutôt que de voir cela, plutôt que d'en courir le hasard, oui, plutôt partir tout de suite, dans toute la fraîcheur de ma joie, avec le trésor intact d'un bon souvenir. J'hésitais un instant. Une dernière fois, je regardai la fenêtre derrière laquelle dormait Scabieuse, le poète des Ramiers, puis, à tire-d'aile, je traversai Paris. Bien loin seulement, je m'arrêtai, au-delà des banlieues, dans la campagne. Je me posai en haut d'un arbre et je me tournai vers la grande ville sur laquelle le soleil levant versait à flot la lumière, incendiant quelques vitres et les sommets des tours et des dômes. Une émotion profonde me saisit. Au moment d'abandonner ce monde où j'avais souffert, tous mes chagrins me revinrent au cœur, tous ensemble, comme pour accabler la pauvre joie que j'essayais de défendre contre eux. « Race des hommes, m'écriai-je, vous qui passez parmi nous pour aimer la poésie, elle coule autour de vous et vous n'y prenez pas garde et vous la laissez aller sans comprendre qu'elle vous rafraîchirait et qu'elle vous reposerait. » J'ai chanté pour un prince qui s'est endormi, pour une femme qui m'a chassé. Après plusieurs années, je commence à croire au poète, je veille à la porte d'un homme de lettres, et pourquoi? Pour y entendre rire, de cette jeunesse qui m'a séduit, de ces vers qui m'ont touché. C'est la troisième peine que j'endure à cause de vous, ce sera la dernière, je pars. Je vais là où les auditeurs ne me manqueront pas, plus humbles mais plus fidèles à la loi de leur race, dans les champs déserts, parmi les insectes, les oiseaux et les bêtes sauvages. Eux ne me repousseront pas. Et dans les nuits, dont ni vous ni votre bruit ne diminuerez la grandeur, je chanterai pour Dieu qui m'avait fait pour vous. » J'étais donc résolu à me retirer du monde et à me faire moi aussi rossignol de ruines. Mais, avant de mettre à exécution mon projet, je voulus voir une dernière fois mon père. Je pensai, le long du chemin, à ce qu'il faudrait lui dire et de quelle manière je devrais le saluer pour ne pas me heurter tout d'abord à son humeur, devenue sauvage et ombrageuse avec l'âge. « Mon père, répétai-je en faisant mes étapes, vous nous avez donné des leçons qui m'ont toujours guidé. Grâce à vous, je suis devenu le chanteur que vous-même ne dédaignez pas d'écouter. Sur votre conseil, j'ai cherché à plaire à trois sortes de gens, les rois, les femmes, les poètes. Vous savez ce qu'il est advenu de mes deux premiers essais. Quant aux poètes, il en existe encore. J'en ai découvert un, tout jeune, et comme il pleurait, j'ai éprouvé sur lui cette puissance consolatrice dont vous m'aviez parlé. Mais ils sont rares aujourd'hui, et l'on ne rencontre plus communément, comme vous l'avez fait, de ces amateurs de rossignol, âmes souffrantes ou ailées, qui trouvaient de la joie dans le chant d'un oiseau. La prose a bien grandi par le monde, mon père. Je lui aurais dit plus d'une chose encore et demandé plus d'un avis. Hélas, quand j'arrivais dans le bois d'oranger, je cherchais vainement le nid. Quelques morceaux de crin tordu, une coque d'œuf brisée, tombés au pied de l'arbre, attestaient seuls la place où fut mon berceau et celui de bien d'autres rossignols philomèles. Le vent roulait ces derniers débris. En les considérant, je vis que la ruine devait remonter à plusieurs mois déjà. L'abandon était définitif et la cause ne m'apparut que trop clairement. Mon cœur se serra. Je passai tout le jour à me souvenir. Devant moi, là-bas, la mer était encore bleue, Naples bruissait, contente de vivre, et la fumée du Vésuve se tordait vers Sorrente.